Radio Time.
Bienvenue sur
Fréquence à jour.
Moi, j'ai grandi dans des cités de la banlieue parisienne, mais on passait toutes nos vacances en Ardèche, dans un village qui s'appelle la Bastide de Virac. Toute l'année en classe, je pensais aux odeurs de mon village, aux pierres des maisons, au bal du 14 juillet. Je me disais Ardéchois.
Bonjour. Lundi 20 janvier, nous sommes allés voir le spectacle d'Olivier Bertrand au sujet de son livre « Les Imprudents » sorti en mars 2019, qui parle d'un maquis en Ardèche avec les classes de 3e B et D. Ce spectacle parle plus précisément d'un hameau de la Bastide de Virac. Les élèves sont allés voir ce spectacle car cela entre dans leur programme d'histoire-géographie.
Ça m'a fait penser déjà à des choses du chapitre du cours d'histoire du prof Monsieur Spinel. Et puis ça aussi m'a fait penser à une histoire, un roman que j'aurais pu lire.
Alors moi ça me fait penser au cours de Monsieur Spinel, le cours sur la Seconde Guerre mondiale. Et ça me fait aussi penser à un film que j'avais vu sur la Seconde Guerre mondiale, ou un documentaire, c'était sur la 7.
Radio Time.
Fréquence à jour.
Olivier Bertrand, qui provient d'une famille italo-ardéchoise, est un journaliste qui est né le 1er avril 1964 à Champigny-sur-Marne, en Île-de-France.
Comment êtes-vous devenu journaliste ?
Alors, au début, j'ai fait beaucoup de métiers différents dans ma vie. Et puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans un journal qui s'appelle Libération. Et je suis allé voir cette personne qui m'a proposé ensuite un stage dans ce journal. Donc, j'ai fait un premier stage. Ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, du coup, j'ai décidé de faire des études de journaliste. Voilà, j'ai fait l'Institut français de presse qui est à l'Université Paris 2 à Paris.
Vos études ont duré combien de temps ?
Alors, mes études ont duré en tout 5 ans. J'avais fait déjà des études d'esthétique, ça veut dire en gros philosophie de l'art. Et ensuite, j'ai donc fait d'abord, on va dire que j'ai fait en tout ensuite 3 ans pour avoir un DESS de journalisme.
Il a fait des études de journalisme et a créé ce spectacle car la Bastide de Virac est son village d'origine. Son père avait l'habitude de lui raconter l'histoire de ce maquis et lui expliquer à quel point ce massacre l'a touché.
Olivier Bertrand parle de résistance française, notamment en Ardèche, et du mystère autour d'un corps non identifié retrouvé aux alentours d'une ferme incendiée, proche d'un hameau qui lui tient à cœur, celui des Crottes.
J'étais très jeune quand mon père m'a amené pour la première fois au hameau des Crottes. Cela veut dire les grottes en provençal. Il était abandonné. Plus personne n'y venait. On le disait maudit. Mon père m'a raconté l'histoire. Le 3 mars 1944, des soldats allemands sont arrivés à l'aube et ils ont tué tous les habitants, les femmes, les hommes, les enfants, parce qu'ils avaient caché les résistants. C'est l'un des innombrables petits massacres oubliés l'hiver 43-44. Sauf que dans ce hameau-là, il y avait 15 habitants et on a retrouvé 16 corps.
Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ?
Je l'ai trouvé hyper intéressant. J'en ai appris sur ma ville parce que j'habite là-bas. J'ai aimé l'histoire, c'était émouvant. Et si c'est à refaire et à réécouter une de ces histoires, c'est sans problème.
Alors j'ai bien aimé le spectacle parce que j'ai bien aimé le fait que ce soit illustré avec des images. Comme ça nous permet de bien se projeter. Et c'était très bien expliqué.
J'ai trouvé que c'était très bien et qu'Olivier racontait très bien l'histoire. Vu qu'il y avait des images, ça permettait de mieux comprendre. C'est vrai que vu qu'il faisait des pauses, des fois, c'était mieux compréhensible.
Nous avons eu la chance d'être guidés par Olivier Bertrand sur les lieux mêmes de la Bastide de Virac en Ardèche.
Cette visite a rendu l'histoire plus immersive et vivante encore.
En effet, le journaliste nous raconte l'épisode de l'incendie dans une ferme attaquée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont tué des résistants d'un même hameau. Il s'agit d'un génocide appelé le Petit Oradour-sur-Glane, par les Français et personnes locales.
Comme le Mas de Céret est incendié, on les amène au hameau des Crottes, où il y a une ferme, une grange qui est abandonnée, et c'est cette grange que vous avez derrière vous là. Et donc Bir Hakeim s'installe là dans la grange. Est-ce que vous voyez tous les petits trous dans l'enduit, dans le vieil enduit? Partout, il y a des impacts là. C'est les traces de balles du combat avec les Allemands. Donc Bir Hakeim s'installe là. C'est un petit groupe qui s'installe là, donc le 26 février au soir. Il va y rester que quelques jours, parce qu'au moment où Bir Hakeim s'installe là dans la grange, il y a une division allemande, une colonne allemande qui va partir de Nîmes, ça je vous l'avais raconté, qui est une division beaucoup plus redoutable que celle qui avait attaqué le Mas de Céret. C'est une colonne SS, elle s'appelle Hohenstaufen. Elle arrive le 2 mars à la Bastide. Dans un premier temps, ils vont aller au Mas de Céret. Parce que visiblement, en fait, la division Hohenstaufen ne sait pas que le Mas de Céret a déjà été attaqué. Dans les auditions que j'ai retrouvées, moi, du lieutenant qui a dirigé le peloton d'exécution, il dit qu'il recherchait un centre d'entraînement de la résistance qui avait été dénoncé par un Français. Donc ils vont aller au Mas de Céret. Là, ils retrouvent le Mas de Céret incendié par leurs collègues de la division Brandenburg. Ils vont envoyer des patrouilles un peu partout. Et l'une des patrouilles arrive ici au hameau des Crottes. Le maquis a été prévenu la veille que les Allemands arrivaient, qu'ils allaient bientôt être attaqués, et ils sont partis. Mais ils ont laissé malheureusement dans la grange un casque et une cantine militaire, notamment. Les Allemands arrivent, ils trouvent des objets militaires dans la grange, ils en déduisent que les paysans ont aidé la résistance, ou même qu'ils font partie de la résistance. Dans les auditions du lieutenant dont je vous parlais, que je vais vous montrer après, en fait, lui explique qu'ils ont jugé et fusillé des terroristes. C'est-à-dire qu'ils vont juger les habitants, les paysans d'ici, comme s'ils étaient des terroristes. Donc ils les ont réunis dans une ferme, ils ont amenés au champ où on va aller ensuite, et ils les ont tous fusillés à cet endroit-là.
Dans ce fameux hameau se trouvait donc un groupe de résistants qui se faisait appeler Bir Hakeim, groupe créé par deux résistants, André Chaban et Gaël Pascoe. Ce sont des résistants nomades qui ont été tués à la Bastide de Virac, et plus précisément au hameau des Crottes. Plus tard, en 1944, les SS ont été prévenus de la présence de résistants dans ce hameau. Or, en vue de leur défaite à venir, l'armée allemande s'était retirée de certaines zones de France, notamment en Ardèche.
L'endroit comptait 15 habitants, mais 16 corps ont été retrouvés. Un seul corps demeure inconnu, retrouvé plus loin, sans qu'on ne sache pourquoi.
Boyer Lucien.
Mort pour la France.
Boyer Néfradier Ernestine.
Mort pour la France.
Boyer Georges.
Mort pour la France.
Brunel Louis.
Mort pour la France.
Chaque année, le village se réunissait autour des tombes des familles assassinées et de celles plus étroites, avec sa plaque de marbre gravée « Un inconnu ». Quand le maire commençait à égrener les noms, que les habitants répondaient, j'avais du mal à retenir mes larmes. Quand à la fin, il appelait un inconnu, que le village murmurait « Mort pour la France », je ne pouvais plus les retenir. Elles roulaient. Cela me bouleversait, un village qui recueillait un inconnu, sans poser de questions.
Le journaliste Olivier Bertrand, en 2019, a résolu l'affaire au sujet de l'identité de ce cadavre inconnu. Il commence d'abord ses recherches sur Internet en se renseignant sur le hameau de Bir Hakeim.
Votre enquête a duré combien de temps ?
Alors, c'est compliqué de répondre de façon très précise, parce que d'abord, j'ai fait beaucoup de choses depuis chez moi, tout ce que je pouvais faire sur Internet, lire tout ce qui avait été écrit sur Bir Hakeim, tout ça. On va dire qu'en gros, j'ai dû enquêter pendant 2 ans à peu près.
Quelles sont vos sources de recherche ?
Alors, les sources de recherche, elles sont multiples. Sur une histoire comme celle qu'on a vue ce matin, à la fois je suis passé dans tous les villages où le maquis Bir Hakeim était passé, avait été caché, pour essayer de retrouver des anciens, des vieilles personnes, donc des témoins, ou des témoins indirects. Souvent dans ces villages, on m'a donné des documents, des fois une lettre, des fois des photos, un dessin, vous voyez, des choses comme ça, qu'on avait gardées de l'époque. Ensuite, je suis allé à ce qu'on appelle les archives départementales. Il y en a dans tous les départements de France. C'est des endroits qui sont chargés de collecter la mémoire, de l'organiser, la classer, et ensuite de la mettre à disposition de la population. Tout le monde peut aller gratuitement aux archives départementales, rechercher un dossier. Il suffit de montrer sa pièce d'identité. Ensuite, je suis allé voir d'autres archives, archives nationales, archives de la Défense, services historiques de la Défense, et les archives de la justice militaire. Voilà pour l'essentiel. Archives de la justice militaire qui sont passionnantes, et c'est l'endroit où j'ai retrouvé le dossier d'instruction du massacre des Crottes. Donc les auditions du lieutenant qui avait dirigé le peloton d'exécution, qui raconte la matinée, ce qui me permettait d'avoir le point de vue des Allemands, le témoignage côté allemand ce jour-là. Voilà l'essentiel des sources.
Pourquoi prenez-vous ce temps pour expliquer cette période aux adolescents ?
C'est une excellente question, c'est une très belle question. Parce que je pense que c'est très important de transmettre. Bientôt, moi je connais des hommes qui ont appartenu à la résistance. Je connais encore un monsieur qui a appartenu au Maquis Birakem, par exemple. Il va avoir 100 ans dans quelques jours. Bientôt, malheureusement, Jean ne sera plus là. Et donc, il faudra continuer de transmettre toute cette histoire, notre histoire. Quand j'ai commencé à travailler, plus personne ne savait rien sur cette histoire de Bir Hakeim, sur ce massacre. Il y avait plein d'erreurs qui étaient communiquées. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a arrêté de transmettre. Si on arrête de raconter, on perd les histoires. Moi, je pense essentiel de raconter, de transmettre la mémoire. Et donc, c'est le travail que je mène. Et par ailleurs, il y a une autre raison qui est importante pour moi, c'est que j'aime ça. J'aime raconter, j'aime être avec des adolescents pour leur raconter notre histoire commune. Et donc, je prends vraiment plaisir à le faire.
Votre livre a-t-il eu beaucoup de succès ?
De nos jours, le succès d'un livre en littérature, malheureusement, c'est pas tant de livres que ça. Donc, pour mon éditeur, c'est un vrai succès. C'est-à-dire que le livre a dû se vendre à peu près à 7000 exemplaires. Moi j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui lisent mon livre, mais mon éditeur est quand même très content de ça. Surtout il a été édité en poche, où là il continue à se vendre beaucoup, donc oui. Et puis on peut mesurer le succès au nombre de livres qu'on vend, on peut aussi le mesurer aux articles qui sont écrits sur votre travail, il y a eu des très beaux articles décrits sur mon livre, et puis on peut le mesurer tout simplement à des journées comme aujourd'hui, où à partir du travail qu'on a fait pour un livre, on continue de transmettre, on continue de raconter, on garde l'histoire vivante en fait. Et ça pour moi c'est essentiel, que l'histoire soit vivante, qu'on la transmette, qu'on continue à rechercher. Tu vois ?
C'était Radio Time,
fréquence à Joron, présenté par les élèves
du collège de Vallon-Pont d'Arc.
Merci de nous avoir écoutés et si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez vous procurer le livre d'Olivier Bertrand, Les Imprudents, en format original mais aussi en format poche.
Ce projet a pu voir le jour dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle Les Chemins de la Libération, porté par la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération.